René, ça marche pas.
Caroline m'a passé par mail les...
La première venue nous a aussi nous peine nos péchés, Seigneur, pour que Jésus Christ.
Il y a un peu de retard, mais il y a une satisfaction que les choses avancent petit à petit. On a le projecteur que l'on n'avait pas depuis un petit moment, et etc. Ça, c'est des choses importantes. Voilà. Donc, on a la prière, on aurait pu dire encore beaucoup d'autres choses. Hein. Je ne veux pas vous laisser sur l'impression que je vous ai tout dit sur la prière. Mais il est temps de passer au sujet suivant, c'est le témoignage. Voilà, donc le témoignage. Alors, on a trois versets, hein. Comme d'habitude, il y a trois versets. Alors, le premier, c'est 1 Pierre 3,15. Le deuxième, c'est 2 Corinthiens 4,13. C'est le verset et la deuxième partie du verset. Et puis Romains 10, les versets 9 à 10. Alors, si un de vous veut lire le premier verset, 1 Pierre 3,15. Voilà. Le deuxième. De Corinthiens 4, 13, le verset, la deuxième partie du verset. Je crois qu'Astrid, tu l'as. J'ai cru. Voilà. Et Romains 10, 9 et 10, c'est celui qui est en général le plus utilisé pour cette question-là. Alors Romains 10, 9 et 10, oui.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, tu crois en lui, ne sera point confus.
Voilà. Donc c'est les trois bons versets pour nous parler du témoignage. Donc, ce sont des versets qu'il est bon d'apprendre par cœur. Hein. C'est, non seulement il est bon, mais c'est fortement recommandé. C'est le. Dans ce. Le premier verset, c'est en fait, quand nous sommes dans les épreuves à cause de notre foi, eh bien, on rend témoignage et on dit pourquoi. On croit. Et c'est vrai qu'il y a des chrétiens persécutés pour leur foi. Et alors, le Seigneur Jésus nous a donné une promesse, c'est que quand nous étions devant les tribunaux et que nous étions devant nos accusateurs à cause de notre foi, eh bien, nous n'avions pas à nous inquiéter de ce que nous aurions à dire, mais au moment même, eh bien, nous aurions les paroles. Le Saint-Esprit lui-même nous donnerait les paroles pour ceux qui nous accusent et ceux qui nous persécutent. Et même devant ces paroles, eh bien, ils ne pourraient pas résister. C'est le témoignage de beaucoup de chrétiens que quand ils ont été dans des situations difficiles où on leur a demandé des comptes de leur foi, eh bien, ils ont su rendre témoignage d'une manière claire et lucide et parfaite. Je me rappelle, peut-être vous avez déjà entendu parler d'un certain Jérôme de Prague. Jérôme de Prague, c'est ce qu'on a appelé un pré-réformateur. C'est des réformateurs qui viennent avant la réforme. Comme quoi, il y a eu toujours des chrétiens vivants et bouillants à une certaine époque. Jérôme de Prague était disciple de... si ma mémoire est bonne, d'un certain Savonarole qui avait été persécuté pour sa foi. Et alors, Jérôme de Prague avait marqué une hésitation. Et puis finalement, il s'est décidé, il a dit non, la foi mérite que l'on risque sa vie. Et il est allé à un concile, à Constance, Et parce que les gens étaient très, comment dire, montés contre ce qui avait été dit. Et alors cet homme avait un sauf-conduit, c'est-à-dire une lettre du roi qui le protégeait. Mais la première chose qui lui est arrivée avec sa lettre, c'est que on l'a mis en prison et il y est resté pendant des mois. Pendant 3 mois, il est resté dans une prison du Moyen Âge. Imaginez un petit peu, je peux vous garantir que même si la télévision n'existait pas à l'époque, il n'avait pas le confort pour clarifier ses idées. Et alors, quand il a paru devant le tribunal de l'Inquisition, on appelait ça le Concile de Prague, de Constance, mais c'était un tribunal de l'Inquisition, il a été mis devant ce tribunal et les gens étaient stupéfaits de la clarté de ses raisonnements et comment il a démontré sa foi et il a appuyé toute son argumentation sur la parole de Dieu et comment c'est tout était clair. On n'aurait pas dit que cet homme était en prison avec les rats, parce que c'était la bonne compagnie qu'il avait, la seule, et c'était le Saint-Esprit lui-même qui a donné les arguments qu'il fallait dans sa bouche. On tient ce témoignage d'un de ses ennemis qui a rendu compte à un évêque de comment Jérôme a rendu témoignage à la vérité. Alors c'est un ennemi qui a rendu témoignage de ce que c'était tellement clair, tellement lucide et tellement convaincant. On se demande comment il n'était pas convaincu, mais il était fortement enraciné dans ses idées. Finalement, Jérôme a été brûlé, hein. C'est même s'il avait le sauf-conduit du roi, même s'il était protégé par des personnes très puissantes, eh bien, on l'a quand même mis à mort. C'est donc pour dire la chose, quand on doit être prêt à rendre témoignage, même devant ceux qui nous persécutent et qui nous disent du mal de nous et qui nous font du mal. Mais à plus forte raison, ceux qui sont bienveillants et qui sont prêts à entendre l'Évangile. Alors, ce n'est pas écrit sur leur front qu'ils sont prêts à entendre l'Évangile. Alors qu'il y a des gens qui sont prêts, d'autres qui ne sont pas prêts. Il y a ce verset qui nous dit aussi, c'est l'apôtre Paul qui disait à Timothée, insiste en toute occasion, favorable ou non. Alors nous avons l'impression qu'une occasion n'est pas favorable. Alors c'est notre impression. Si derrière nous le Saint-Esprit nous dit parle, eh bien parlez, que vous ayez l'impression ou pas l'impression. De notre côté, eh bien, parfois des personnes très très agressives, eh bien, ont été convaincues de leur erreur. Et souvent, une personne qui est très agressive, c'est justement parce qu'elle est sur la défensive et parce qu'elle est presque convaincue. Et elle ne veut pas céder. Alors, elle est très agressive. Mais en fait, elle démontre qu'elle est touchée, que l'Évangile a touché son cœur. Donc, ce que je peux dire, c'est que, et c'est ce que l'on a dit, une église qui ne témoigne pas, c'est une église morte. C'est vrai pour l'église, et c'est vrai pour le plus petit de ses représentants, c'est-à-dire l'individu lui-même. Parce qu'il y a l'église dans sa généralité, alors on se cache, on dit, une église qui ne témoigne pas, c'est une église morte. Mais le plus petit élément de l'Église, c'est nous, c'est moi, c'est vous, c'est chacun individuellement. Donc, ce que l'on peut dire pour une Église, on peut exactement le dire pour le plus petit de ses représentants, c'est-à-dire nous. Il est évident que nous ne pouvons pas être tout le temps dans la rue en train de distribuer des invitations. Je l'ai fait, hein. C'est tout à fait au début de ma vie chrétienne, je distribuais, je distribuais, je distribuais, je distribuais des milliers. Je ne savais pas m'arrêter. J'étais devant des portes et à 9h30 du soir, je tapais encore aux portes. Je me dis peut-être celle-là, peut-être celle-là, peut-être celle-là. Et puis à un certain moment, bon, c'était fini quoi. Il fallait s'arrêter. Et parce que je ne savais pas comment m'arrêter, je ne savais pas où était la fin. Mais il y a un moment, bon, on arrête et Dieu ne nous demande pas d'être tout le temps dans la rue en train de distribuer. Et ce n'est pas forcément la meilleure méthode. La meilleure méthode, eh bien, c'est d'être dans la présence de Dieu, dans sa communion. Et quand vous avez cette voix qui vous dit « parle », alors vous parlez. À plus forte raison, vous parlez. Après, il y a des moments où on distribue et... Il y a des grandes distributions où on fait pas connaître une réunion, où c'est un témoignage que nous avons à certains endroits. Je me rappelle, j'ai eu un stand biblique pendant 13 ans à l'université de Perpignan. Et j'ai eu le privilège de voir plusieurs des étudiants se convertir et même servir le Seigneur. C'était pour moi un grand encouragement et... De ce témoignage, eh bien, d'autres choses sont nées, ces étudiants ont parlé à d'autres. Et il y a même des étudiants africains qui sont repartis en Afrique avec des Bibles. Je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Et à la limite, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. Lui, il sait qui est converti, qui a emporté la Bible et qu'est-ce que ces Bibles sont devenues. Je me rappelle même à une époque, j'avais toujours 5 Bibles parce que je n'étais pas riche. Donc j'achetais 5 Bibles, je les achetais par 5. Toutes les semaines, j'achetais 5 Bibles. Je les posais sur la table et au moment où je les ai posées, hop, il y en a un qui l'a... Et puis je les vendais hein, parce que je n'étais pas riche. Donc je ne pouvais pas les donner. Et c'était 10 francs la Bible. Et hop, ils prenaient les Bibles, ils partaient. Et puis ils ne m'ont pas dit « Ah oui, j'ai lu la Bible ». Non, ils sont partis avec la Bible. Donc ça, c'est notre privilège de chrétien, de pouvoir annoncer l'évangile, de pouvoir dire que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il a donné sa vie pour nous et que quiconque croit, eh bien, peut être sauvé. Quiconque accepte cet évangile, eh bien, peut être sauvé. C'est notre grand privilège. C'est le témoignage de la conversion. Comment nous nous sommes convertis? On témoigne comment le Seigneur a changé nos vies. Comment un jour nous étions perdus et comment un jour nous avons été sauvés. Comment les choses se sont passées. On est des témoins, témoins oculaires. Le témoin oculaire de notre propre vie, ce qui s'est passé dans notre vie. C'est le premier témoignage. C'est le témoignage essentiel. Alors, je vous donne une piste. C'est beaucoup de personnes, quand ils témoignent, racontent leur vie. Mais on témoigne de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, pas de ce que nous étions. Et j'ai rencontré, je me rappelle d'un gars, il avait été bandit. C'était un bandit. Il était fiché à Interpol, il était fiché au grand banditisme, etc. Eh bien, il racontait comment il avait trafiqué avec un tel, comment il avait fait ceci, comment il avait fait ça. Mais à la limite, je vais vous dire, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Ce que l'on a besoin de dire, j'étais un pécheur, un grand pécheur, d'accord, j'étais perdu, mais le Seigneur a donné sa vie pour moi. On rend témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Pas ce que nous avons fait. Et malheureusement, beaucoup de gens rendent témoignage de ce qu'ils ont fait. Excusez-moi l'expression, la crapule qu'ils étaient. Et le Seigneur Jésus, eh bien, n'est pas glorifié et magnifié comme il doit l'être. Et ça, c'est un très grand défaut dans le témoignage de beaucoup de personnes. Ce que l'on doit rendre, c'est témoignage à la vérité. On rend témoignage au Seigneur Jésus et à ce qu'il a fait dans notre vie et comment il a eu pitié de nous et il a usé de grâce envers nous. Alors c'est vrai que nous étions de grands pécheurs parce que peut-être qu'à nos yeux et aux yeux des êtres humains, eh bien, nous n'étions pas si pécheurs que ça. Mais nous étions de grands pécheurs parce que même ce que l'on appelle de petits péchés, eh bien, aurait amené la mort sur la croix du Seigneur Jésus-Christ. Le plus petit de ce que nous appelons le plus petit des péchés. Allez, je suis un peu gourmand. Ben, la gourmandise a amené Jésus-Christ sur la croix. Même si ce n'était que cela, eh bien, Jésus-Christ aurait donné sa vie sur la croix. Ce n'est pas seulement les criminels. Le Seigneur Jésus n'est pas mort pour les criminels, les voleurs et les adultères et tous ceux qui, ce que l'on appelle, nous, les grands péchés. Mais même pour les tout petits mensonges, eh bien, le Seigneur Jésus a donné sa vie. Donc, quand nous nous rendons souvent témoignage, eh bien, on rend témoignage de grands péchés. Et je me rappelle d'un chrétien un peu naïf qui avait écouté un de ces... une de ces personnes qui raconte sa vie et qui parle de tout le mal qu'ils ont fait, il dit « Ah, moi, tu sais, j'ai pas un témoignage comme lui. » Mais là, vous n'avez pas un témoignage, vous avez un témoignage, c'est tout. Vous n'avez pas, peut-être pas tué 10 personnes, vous n'avez pas été voleur, mais vous avez été un pécheur et puis c'est tout. Il ne s'agit pas de raconter. Le Seigneur Jésus est mort pour chacun des pécheurs. Alors, pécheur, pour être un pécheur, eh bien, il faut avoir commis un péché. Alors, qu'il s'appelle par un nom ou par un autre, c'est le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun. Et je vais vous dire, le premier homme pour lequel le Seigneur Jésus a donné sa vie était un criminel. C'était un des brigands sur la croix. Ils avaient été condamnés à cause d'une sédition. Et chez les Romains, une sédition, eh bien, c'est un crime. Ils avaient commis un crime, ils avaient tué sans doute un Romain, et ils avaient été crucifiés à cause de ça. Mais c'est le premier homme pour lequel le Seigneur Jésus a eu pitié. Et vous savez quel est le deuxième? Ah, vous ne le savez pas. Non, c'est Pierre. C'est celui qui a renié le Seigneur Jésus. Alors, vous dites, entre le criminel sur la croix et le deuxième qui a renié son ami, son maître, eh bien, il y a une très grande différence. Eh bien, les morts pour les deux. Et le Seigneur Jésus a regardé Pierre. Et Pierre s'est repenti amèrement. Et il a été sauvé là. Et après, le Seigneur Jésus lui a tendu la perche pour qu'il puisse mettre sa confiance complètement dans le pardon qu'il avait acquis quand il avait pleuré amèrement. Mais vous savez, nous disons, mais entre les deux, il y a une immensité. Non, il y a juste la grâce de Dieu et il y a le pardon de Dieu. Entre ce que nous appelons de grands pécheurs et de petits pécheurs, eh bien, il y a toute la grâce de Dieu, c'est tout. Et nous, nous faisons des différences. Mais Dieu, lui, ne fait pas de différence. Pour être au bénéfice de la grâce de Dieu, il suffit d'une chose, être un pécheur. Voilà. Un grand ou un petit. Ça, c'est nous qui faisons la différence. Mais pour bénéficier de la grâce, de la miséricorde de Dieu, eh bien, il faut être un pécheur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est la nécessité de témoigner. Donc on aura l'occasion de voir d'autres choses, hein.